d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est à la une la face sombre de la lutte anti-djihadiste au Mali. L'armée malienne a-t-elle exécuté des centaines de civils avec l'aide de mercenaires russes? Les autorités ouvrent une enquête, un témoin raconte dès le début de ce journal. Dernier meeting avant le premier tour de la présidentielle. La campagne officielle s'achève demain soir. C'est aussi le moment de penser aux procurations si vous n'êtes pas disponible ce dimanche. Et vous l'entendrez, il y a quelques nouveautés pour cette élection. Dans ce journal aussi, entre Ukraine et Russie, les familles divisées sous l'effet de la propagande du Kremlin. Des éleveurs français de volailles choqués par les conditions d'abattage en pleine grippe aviaire. Et un thriller géopolitique signé Hillary Clinton.
Au micro de Léa Salamé à 7h50 aujourd'hui, deux spécialistes des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'avocate à la Cour pénale internationale Rachel Lindon et le colonel Éric Emereau.
France Inter.
Au Mali, Alexis, les autorités sont finalement contraintes de réagir.
Que s'est-il passé à Moura, dans le centre du pays, la semaine dernière? Cette région est l'un des principaux foyers de tension au Sahel et l'armée malienne y est accusée d'exécution massive de civils avec l'aide de présumés mercenaires russes de la milice Wagner. L'état-major assure avoir ciblé uniquement des djihadistes, mais la justice militaire malienne vient tout de même de décider l'ouverture d'une enquête face aux témoignages non nombreux et accablants, comme celui que vous allez entendre, commenté par Claude Guibal.
L'homme qui raconte vit à Moura, près de Mopti, au centre du Mali.
D'abord, trois hélicoptères sont arrivés à 11h le dimanche. C'était le jour du marché de Moura.
Selon des renseignements reçus par l'armée malienne, des membres de la Katiba du Massina, l'un des plus gros groupes djihadistes du Sahel, se sont ce jour-là mêlés à la foule du marché pour se réunir. Tirs depuis les hélicoptères, puis violents combats au sol. L'armée malienne affirme avoir abattu 203 terroristes avant de procéder, selon son communiqué, à un nettoyage systématique de la zone, puis interpellation de suspects.
De dimanche à jeudi, ils ont tué plus de 200 personnes. Ils les ont jetés dans une fosse commune et ont mis le feu. On ne peut pas nier qu'ils ont tué des djihadistes. Mais sur 10 personnes tuées, seule une personne était djihadiste. Les plus nombreux parmi les morts sont des civils tués.
Les témoignages recueillis par l'ONG Human Rights Watch ou l'AFP parlent, eux, de 300 morts, essentiellement des civils exécutés sommairement sur la simple suspicion de leur origine ethnique. Dans cette région sous contrôle djihadiste, les populations sont majoritairement des Peuls, des nomades musulmans, stigmatisés par l'État dont les djihadistes exploitent le ressentiment pour recruter des combattants au milieu des populations civiles prises en étau entre les groupes terroristes et les militaires.
Et ces dernières heures, l'ONU tente d'envoyer ses propres enquêteurs sur place.
La Russie soupçonnée au Mali, il est 7h33, est prête à une nouvelle offensive en Ukraine.
L'est de l'Ukraine est désormais la cible principale de Moscou, alors les autorités locales alertent les habitants. Partez tant qu'il est encore temps, avant des combats qu'on pressent très violents. 1200 civils ont d'ailleurs été exfiltrés hier soir de la région de Louhansk. Un peu plus au nord, à Kharkiv, deuxième ville du pays, le maire estime lui qu'il n'y a aucune raison d'évacuer. Ma ville, dit-il, est prête à se défendre. Kharkiv, à quelques kilomètres de la frontière russe, où la propagande de Moscou divise désormais les familles. Étienne Monin y est notre envoyé spécial.
Kharkiv est un bon indicateur pour mesurer l'ampleur du divorce entre les Ukrainiens et les Russes. La ville est à 30 km de la frontière à peine, elle est russophone, les familles souvent sont des deux côtés, mais la guerre a changé la donne, explique Yakov, originaire de Sibérie. Il parle russe.
Ma femme a de la famille en Russie. J'y allais moi avec ma voiture sur 2000 km. Mais ils ont provoqué tellement de haine chez nous. Ce sont des bâtards. Et pas des frères. Ils n'ont jamais été nos frères.
Ce qui creuse le fossé, c'est que les proches de ces Ukrainiens en Russie sont devenus hermétiques à leurs arguments. La propagande a dressé un mur entre les deux nations. Olia est une jeune artiste de Kharkiv. Sa tante vit en Russie. Elle se trouve démunie face à la puissance du narratif de Moscou.
Ils ont vu tous ces dégâts. Et pourtant, ils nous appellent et ils nous disent qu'on est des menteurs. And they say that we are liars. Que la Russie ne nous bombarde pas. Russia doesn't bomb us. Ils disent tout ce que vous voyez, c'est du Photoshop.
Et ce divorce maintenant touche toutes les générations et toutes les régions.
Étienne Monin et Gilles Gallinaro, envoyés spéciaux de France Inter à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. À 3 jours de la présidentielle en France, l'heure des derniers meetings. Alors l'agenda est chargé aujourd'hui. Marine Le Pen sera à Perpignan, Valérie Pécresse à Lyon, Éric Zemmour à Paris, Yannick Jadot à Nantes. Fabien Roussel est lui attendu à Lille. Le candidat communiste ne veut pas entendre parler de vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Et il tente de cultiver sa différence, notamment sur le nucléaire, qu'il est le seul à défendre à gauche au sein d'un mix énergétique.
Je suis le seul à vouloir un mix énergétique, investir dans les renouvelables. Il faut le faire, développer l'éolien, le solaire, la géothermie. Il faut le faire.
Oui, tant qu'on investit dans l'entretien des centrales.
Et il faut investir aussi dans la production d'énergie nucléaire décarbonée. On en a besoin pour baisser les factures d'électricité. Je les baisserai tout de suite de 30% en baissant les taxes, mais aussi pour l'avenir et sortir du fossile, sortir du pétrole et du charbon. Et retrouver notre indépendance, notre souveraineté. On n'est plus maître de chez nous. On n'est plus maître de notre production d'électricité. On dépend de la fixation des tarifs parce que l'électricité et le prix de l'électricité dépend du prix du gaz qui est indexé sur le prix du pétrole.
Enfin, on produit encore de l'électricité qui est moins cher qu'ailleurs.
Mais moins cher dans la production. Pas dans votre porte-monnaie et pas dans celui des entreprises.
Fabien Roussel, invité de France 2 hier soir. Si vous souhaitez voter mais que vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes, c'est le moment de penser à la procuration car il ne reste plus beaucoup de temps. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Alors où en est-on ce matin ? Le ministère de l'Intérieur se félicite du nombre de procurations déjà déposées.
Oui, plus d'un million selon le dernier décompte mardi soir. Et le gouvernement salue surtout une très bonne dynamique. 250 000 demandes déposées rien que sur cette journée du 5 avril. En 2017, c'était plus de 2 millions de procurations pour au moins un des deux tours. On pourrait donc y arriver cette année. Et puis le ministère souligne aussi l'engouement pour les formulaires en ligne. Les trois quarts des procurations ont été remplies sur Internet. Manière aussi de montrer que l'exécutif a mis en place des outils pour lutter contre l'abstention qui pourrait atteindre des records, alors même qu'il n'a pas souhaité reconduire le système des doubles procurations en vigueur au régional et au départemental.
En revanche, la nouveauté, Simon, c'est qu'on peut donner procuration à quelqu'un qui n'est pas inscrit dans la même commune.
C'est la grande nouveauté cette année, même si, attention, cette personne devra tout de même se rendre dans votre bureau pour voter à votre place. Pour faire cette procuration donc, soit vous allez directement au commissariat ou à la gendarmerie, soit vous remplissez le formulaire sur maprocuration.gouv.fr, puis vous vous rendez sur place pour faire valider votre identité. En théorie, vous pouvez faire cette procuration jusqu'à la veille du scrutin, donc samedi pour le premier tour, mais il faut le temps que le document puisse arriver en mairie, donc aujourd'hui ou demain au plus tard, pour éviter les déconvenues.
Simon Le Baron, merci. Quant aux professions de foi, une petite moitié des enveloppes a déjà été distribuée dans les boîtes aux lettres. Les plis restants sont en cours d'acheminement, conformément au planning prévu, assure le ministère de l'Intérieur. Un pic ou un plateau, trop tôt pour le dire, mais les contaminations Covid n'augmentent plus en France. 162 000 cas recensés hier contre 169 000 une semaine plus tôt. Le Covid qui augmente bien le risque de caillots sanguins jusqu'à 6 mois après l'infection, selon une étude publiée ce matin par le British Medical Journal. Dans le sud-ouest, mais aussi plus rare, en Vendée, l'épizootie de grippe aviaire cette année est la plus sévère qu'ait jamais connue la France. Pour tenter de l'endiguer, 14 millions de volailles ont déjà été abattues. Abattage massif qui choque L214, l'association de protection animale, publie des images tournées en Vendée. Et cette technique du gazage ne passe pas non plus auprès de certains éleveurs, Mariam El Kurdi.
Sur cette vidéo, on voit des cadavres de volailles déversé dans un grand camion par un tractopelle. On découvre aussi des dizaines de poulets morts collés les uns aux autres dans un bâtiment d'élevage intensif. Ils viennent d'être gazés. Le gazage, une pratique dénoncée par L214. Sébastien Larsac, son porte-parole.
Il y a du gaz CO2 qui est envoyé dans l'élevage, qui est plus lourd que l'air. Et finalement, les animaux vont s'asphyxier puisqu'il n'y aura plus d'oxygène à leur niveau.
Cette technique provoque une mort lente pour les animaux.
Ça va provoquer des convulsions pour les animaux avant la perte de conscience. Alors que normalement, la réglementation, c'est d'abord d'entraîner la perte de conscience et puis ensuite de tuer les animaux.
Une souffrance et un traumatisme pour les éleveurs qui ont dû faire ce qu'ils appellent le sale boulot, faute de vétérinaires disponibles.
Comme les services de l'État étaient complètement submergés, on nous a demandé oralement de couper la ventilation dans les bâtiments.
Cet éleveur vendéen a dû asphyxier ses 18 000 poulets avant de les enterrer dans un champ. Il préfère rester anonyme. Difficile de briser l'omerta avec la pression des coopératives.
Je voulais surtout pas le faire, mais on n'a pas eu d'autre choix. Et les animaux meurent pas en 30 secondes, ils meurent d'asphyxie pendant une nuit. Et c'est ce qui se passe tout autour de chez moi.
Lui et d'autres éleveurs souhaiteraient aujourd'hui ouvrir le débat sur le modèle agricole intensif, responsable selon eux de cette catastrophe sanitaire.
Les lycéens de terminale ont une journée de plus jusqu'à demain soir pour valider leurs vœux et compléter leur dossier sur Parcoursup. 24 heures supplémentaires accordées après un bug qui a sérieusement perturbé la plateforme une bonne partie de la journée d'hier.
Il est 7h40, une ancienne candidate à la Maison Blanche, Alexis, reconvertie en autrice de thriller.
Hillary Clinton sort un nouveau livre, mais ce n'est pas un énième recueil de mémoires politiques, non. C'est une fiction géopolitique à suspense, État de terreur, ouvrage coécrit avec Louise Penny, la star canadienne du polar. C'est donc l'histoire d'une secrétaire d'État, comme l'a été Hillary Clinton, qui essaye d'empêcher des terroristes de se procurer l'arme nucléaire. Et c'est captivant, Ilana Mor-Youssef.
Bill Clinton, lui aussi, s'était essayé au jeu du thriller en 2018 avec un maître du genre, James Patterson, et il faut bien dire que c'était raté. Hillary Clinton, elle, passe haut la main l'épreuve de la fiction à suspense, aidée par l'écrivaine canadienne Louise Penny. Duo gagnant, donc, qui a pris pour point de départ l'un des cauchemars d'Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État du président Obama. J'ai dit à Louise que je faisais des cauchemars qui m'empêchaient de dormir. L'un de ces cauchemars était de voir des armes nucléaires tomber entre les mains des terroristes, dit Hillary Clinton dans une interview accordée à la chaîne de télévision québécoise Ici Télé. C'est l'intrigue centrale du livre, avec un personnage principal, Helen Adams, nommée secrétaire d'État par un président qui la déteste, entourée d'hommes qui sous-estiment son intelligence, critiquent son apparence physique et lui mettent volontiers les bâtons dans les roues. À bord de son avion, surnommé Air Force 3, elle passe de Séoul à Francfort, à Téhéran, pour empêcher les catastrophes. Il y a de l'action, un portrait du président russe plus vrai que nature, des négociations secrètes et une critique féroce de l'ancien président Trump. Même quand elle écrit de la fiction, plutôt bien, Hillary Clinton fait de la politique.
État de terreur signé Hillary Clinton et Louise Penny, c'est publié chez Actes Sud.
Et ça donne envie. Merci Alexis Morel, l'édito politique. À suivre.